Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les multiples facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Au menu ce soir, des informations rampantes sur les réseaux sociaux, la manipulation reflète un phénomène inquiétant et aggrave les conflits au Sahel. Nous aurons un regard de la situation depuis Dakar. Les étalons du Burkina Faso unis dans la diversité, une source de cohésion sociale et de résilience pour le pays, malgré la crise. Rénovation de l'école coranique de Bagassola au Tchad, un effort conjoint pour protéger les enfants vulnérables de l'emprise de Boko Haram. Toujours au Tchad, le général Idriss Déby et Mahamat Itno a été désigné candidat à la présidentielle 2024 par son parti après un référendum controversé sur une nouvelle constitution suscitant des critiques et des appels au boycott. C'est notre fait marquant de la semaine. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. La manipulation et les conflits ont souvent été associés, mais l'essor des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène en tant que vecteur illimité de désinformation. Les conflits au Sahel servent de baromètre à cette tendance croissante. Davantage avec notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou.
La désinformation occupe de plus en plus de place dans les conflits au Sahel. Elle est même devenue une arme aussi redoutable qu'une Kalachnikov. Une réalité perceptible dans les discours, mais également les attitudes d'un public facilement manipulable. Rien de surprenant pour Samba Dialimpabadi, chercheur en désinformation.
Puisque en Afrique subsaharienne, on a de plus en plus de conflits, et ces conflits se déroulant dans un contexte bien particulier, c'est tout à fait normal qu'on voit aussi que dans le même contexte, on voit une sorte d'explosion de la désinformation avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux. Mais aussi, on voit que de plus en plus, les acteurs en conflit aussi se saisissent de ces outils-là pour faire de la désinformation ou pour faire leur propagande.
L'institutionnalisation de la propagande soutenue par le numérique accentue la vulnérabilité des populations à la désinformation. Cette perversion des réseaux sociaux est perçue comme un véritable danger pour la stabilité du Sahel par Dr Mamadou Bodian, chercheur, membre fondateur du groupe de recherche sur le Sahel.
L'utilisation des médias sociaux, mais surtout d'autres plateformes en ligne, a un effet déstabilisateur. Pourquoi ? Parce que il peut conduire notamment à créer un environnement de peur, à amplifier parfois les clivages. Mais il ne faudrait pas s'attendre à ce que la situation revienne à la normale puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital et du numérique.
L'évolution rapide du paysage de l'information avec le numérique appelle à plus de vigilance pour ne pas céder au diktat de la désinformation. Pour faire face, la sensibilisation des populations est plus que nécessaire, estime Samba Dialimpabadi.
Si les gens sont bien informés des dangers, sont outillés pour procéder à des vérifications simples sans être obligés d'être fact-checker, mais vraiment des vérifications basiques pour savoir est-ce que cette information est authentique ou pas avant de partager. Je pense que ça peut aider à atténuer les choses.
Mais le contrôle des flux d'informations qui passent par les réseaux sociaux et la lutte contre la désinformation passent, d'après Dr Mamadou Bodian, par des décisions fortes des États en termes de législation.
Aller aussi vers une plus grande conscience par les citoyens de l'importance de se retenir quand il s'agit justement de partager des informations qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas vérifiées, mais surtout amener l'État à mettre en place des régulations, des législations qui permettent de protéger contre la désinformation.
Mais en attendant des mesures dissuasives des dirigeants, la désinformation continue de prendre en otage une bonne partie de l'opinion dans la région du Sahel. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
Nous sommes en ligne avec Wahani Johnson Sambou pour continuer la discussion. Wahani, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, quelle est l'ampleur spécifique de la désinformation au Sénégal, en particulier en lien avec les réseaux sociaux, et comment cela influence la perception publique de la situation ?
Alors, Eric, il faut d'abord comprendre que la désinformation est un véritable fléau et le Sénégal n'est pas une exception. C'est comme un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Hein. L'ampleur de ce phénomène a pris des proportions plus qu'inquiétantes ces dernières années, avec notamment, vous l'avez dit, la démocratisation des canaux de diffusion de l'information, comprenez par là l'expansion des réseaux sociaux. Dès lors, la désinformation est l'un des effets pervers de ces outils que moi je qualifie de fantastiques, mais qui ont changé littéralement le visage des médias. Ils ont mis à nu la vulnérabilité des populations dans leur façon de consommer l'information. Le public a maintenant tendance à gober tout ce qui lui est servi comme information sans avoir de moyens de vérifier si les faits sont avérés ou non. En tout cas, pas dans le show, d'où vraiment les conclusions tirées par nos interlocuteurs dans le reportage qui, certains plaident pour la formation, la sensibilisation et d'autres pour justement la mise en place de législations contre tout ça.
Wahani, pouvez-vous partager un exemple concret illustrant l'impact de la manipulation de l'information au Sénégal et comment les autorités ou la société réagissent-elles pour lutter contre ce phénomène ?
Alors, Eric, les faits ne manquent pas pour illustrer cette perversion de l'information via les réseaux sociaux, parce que les Sénégalais sont de grands consommateurs de contenu des médias sociaux, soit sur YouTube, TikTok ou Facebook. Pour prendre juste l'exemple des violences qu'on a connues au Sénégal, on a vu qu'elles ont été catalyseurs de fake news. Par exemple, juste un exemple concret, une séquence avec la police nationale, comme pour vous expliquer que ça peut être des deux côtés, des autorités ou ailleurs, la police qui a brandi des images présentant des gens armés de fusils d'assaut comme étant des infiltrés des manifestants. Alors, le lendemain, d'autres fact-checkers, d'autres journalistes ont recoupé pour montrer d'autres images où on voit les mêmes personnes aux côtés de la police, descendant même des pick-up à côté des véhicules de la police. Donc forcément, cela prouve à quel point la désinformation est devenue vraiment un véritable fléau. Et les autorités tentent de réagir par rapport à ça. Par exemple, pendant ces manifestations, ils ont eu à couper Internet, à bloquer l'accès à TikTok, ce qui me paraît excessif quelque part, mais ça a eu l'effet de quand même bloquer un peu, éviter que ça s'embrase.
Wahani Johnson Sambou, notre correspondant à Dakar. Merci pour toutes ces précisions. Sur Facebook, nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs. Lasga Sek, il dit « Dans l'ère cosmique à venir, la montée des moyens de communication diversifie les sources d'informations, rompant le monopole des grandes agences. Cependant, la diversité engendre la désinformation, soulignant l'importance de consulter des sites certifiés et crédibles. Alphonse Mbouaki à Kinshasa est dit « Méfiez-vous des fausses informations sur les réseaux sociaux. Vérifiez les faits via des médias officiels comme RFI, VOA, France 24. Les fausses nouvelles cachent souvent des stratégies visant à manipuler l'opinion publique et affaiblir les institutions. » Les plateformes numériques accélèrent la propagation mondiale de la désinformation, représentant une menace grave pour la liberté et la démocratie. C'est ce que nous dit Alphonse Mbouaki. Nous approfondissons la discussion avec notre analyste Valdès Onanina, directeur Afrique de l'Ouest d'Africa Tchèque, basé à Dakar. Bonsoir Valdès.
Bonsoir.
Alors, vous êtes analyste, vous êtes confronté à ce défi, à tous les jours, au quotidien, comment un citoyen lambda peut-il vérifier la fiabilité des sources et d'informations au Sahel, en particulier à la lumière de la désinformation sur les réseaux sociaux?
Alors, je pense qu'il s'agisse du Sahel ou de n'importe quel autre contexte, le citoyen lambda doit partir du principe que tout ce qui se lit sur Internet, sur les réseaux sociaux donc, ne doit pas être pris systématiquement comme une vérité absolue. Je pense que ça, c'est le prérequis. Et donc, vérifier la fiabilité des sources dans un tel contexte exige qu'on s'arme de patience pour confronter, recouper, analyser l'information à travers différentes sources. Qu'on regarde ce que disent les médias sérieux, ce que disent les sources officielles. Est-ce que c'est la même version des faits? Voilà, c'est la combinaison de tous ces différents détails qui peut éviter aux citoyens lambda de tomber souvent dans le piège de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux.
Mais les ressources officielles peuvent aussi participer dans la désinformation.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure. Il arrive justement que des sources officielles participent à la désinformation, mais n'empêchent que ce n'est pas tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de confronter les différentes sources, de voir si ce qui est dit par deux, trois sources sur un même sujet concorde. Et je pense que c'est en faisant ce travail, c'est en faisant ce travail transversal que le citoyen lambda, que l'internaute lambda peut arriver, comme je l'ai dit tantôt, à se défaire du piège de la désinformation.
Très souvent, les consommateurs de l'information n'ont pas assez de temps pour vérifier la fiabilité de l'information. Quelles méthodes spécifiques peuvent être utilisées pour identifier la désinformation dans le contexte des conflits au Sahel et comment distinguer les sources crédibles des informations trompeuses?
C'est un peu la suite de la question que vous venez de poser. Et je l'ai dit, il faut commencer par recouper, observer et confronter les différentes sources d'informations. Donc les médias crédibles, heureusement qu'on en a encore des médias crédibles, donc les médias crédibles, des pages officielles, et quand cela est possible, les sources humaines qui sont sur le terrain, parce que ça c'est aussi un paramètre qu'on a tendance à oublier. Et nous par exemple, si je prends l'exemple de la crise de la Covid-19, on a souvent eu recours aux sources humaines sur le terrain pour stopper certaines fausses rumeurs qui circulaient notamment sur les vaccins. Donc, s'ajoute à ceci des techniques qui permettent aujourd'hui de remonter à l'origine d'une image ou d'une vidéo, d'authentifier la véracité d'un contenu qui est en circulation sur les réseaux sociaux. Il s'agit là d'outils utilisables par tout le monde et donc pas seulement par les journalistes ou encore par des spécialistes de l'information.
En quoi la propagation de la désinformation liée au conflit sahélien représente-t-elle une menace pour la paix sociale et quels sont les principaux défis à relever pour contrer efficacement ce phénomène?
Il y a plusieurs raisons et chacun en fonction de la perspective à travers laquelle il fait une lecture de ce problème peut apporter une réponse plausible. Mais à titre personnel, je dirais que la désinformation est une menace pour la paix sociale dans le Sahel, en ce sens qu'elle attise et qu'elle extrapole les tensions déjà existantes. La désinformation donc exacerbe ces conflits. On voit par exemple certaines exactions souvent attribuées à tort à un groupe de personnes à travers différents subterfuges de manipulation sur les réseaux sociaux. Et tout ceci vient donc embraser une situation déjà assez complexe et divise finalement les différents protagonistes, plus qu'elle ne les unit. Alors pour moi, et je vais en quelque sorte paraphraser Nelson Mandela, l'éducation est la clé pour répondre à ce problème. Et en parlant d'éducation, je parle d'éducation aux médias et à l'information, faire comprendre aux gens l'environnement dans lequel ils sont et le fait que la désinformation, la manipulation existe et n'aide pas à résoudre le problème. Il s'agit donc de sensibiliser et d'outiller le public afin qu'il ait un rapport beaucoup plus critique à l'information et qu'en même temps, il puisse être à même d'identifier la désinformation. Après, c'est un travail d'un jour et raison de plus pour s'y mettre dès à présent.
Merci. Il faut aussi combattre l'ignorance. Merci, Valdès, pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique de l'Ouest de Africa Check, basé à Dakar au Sénégal. Nous observons une courte pause. Focus Sahel revient dans un instant.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Au Tchad, l'école coranique de Bagassola, située dans la province du lac Tchad, est actuellement une phase pilote de rénovation. En plus des enseignements coraniques, les élèves inscrits depuis la création de cette école en 2001 suivent également le programme officiel d'enseignement du Tchad. Cette initiative menée par l'État tchadien et ses partenaires vise à garantir l'éducation des enfants fréquentant les écoles coraniques qui sont particulièrement vulnérables et susceptibles d'exploitation par la secte Boko Haram. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le jumelage de l'école coranique de Bagassola avec l'école formelle date de 2021 et participe à la politique de rénovation des écoles coraniques dans la province du lac Tchad, un projet piloté par l'UNICEF grâce à l'appui de la Ligue islamique mondiale. Le bâtiment scolaire complètement délabré a été réfectionné par les partenaires humanitaires. Un accord entre l'UNICEF et l'État tchadien a permis de recruter 4 enseignants au début de ce projet. Le partenariat a pris fin l'année dernière et la délégation régionale de l'éducation nationale n'est pas en mesure de supporter la charge de ses enseignants. La politique de rénovation a été initiée pour conscientiser les enfants des écoles coraniques communément appelées Mouhadirines, qui sont souvent utilisés par les éléments de la secte Boko Haram comme kamikazes. Maloum Ali est le directeur de l'école coranique de Bagassola.
L'année dernière, comme les enseignants étaient nombreux, ces enfants ont bénéficié aussi des cours en français et en anglais. Mais cette année, comme je suis le seul à intervenir, ce n'est pas du tout facile. J'interviens à tous les niveaux. Je fais des navettes entre les classes. Les apprenants sont nombreux. Ils viennent de Dar es Salaam et du centre-ville de Bagassola.
L'imam de Bagassola, Sheikh Ali Omar, se réjouit du partenariat entre l'État tchadien et les organisations humanitaires ayant permis la rénovation de cette école pilote.
Le jumelage de l'école coranique avec l'école formelle, il y a 4 ans, dans notre localité, est une très bonne chose et nous en sommes reconnaissants, car grâce à ce jumelage, nous avons bénéficié de la construction des salles de classe, même si ce n'est pas suffisant. Quelques enseignants ont été rémunérés. Il y a aussi la cantine scolaire qui permet aussi de lutter contre la mendicité. Tous ces enfants que vous voyez viennent à l'école à 7 heures et rentrent à 12 heures.
À la question de savoir si les écoles coraniques de cette localité seront fermées à l'avenir, Nancy Ndala, du service de la communication de l'UNICEF, répond.
Ce sont des questions aussi liées à la religion. On ne peut pas du coup fermer. Donc, on espère que si ça marche ici, on pourra aller dans d'autres pays. Et ce sont des écoles coraniques qui vont se fermer. Avoir maintenant des écoles coraniques rénovées. Le mot rénover, c'est simplement parce que dans ces écoles, on va au-delà de l'enseignement coranique. Mais on contribue aussi à la protection de ces enfants. Parce que les fouets qui étaient là-bas, les suppriment, la mendicité qui expose les enfants, on les supprime. Parce qu'il y a aussi une cantine scolaire ici.
Dans le cadre de la rénovation des écoles coraniques dans la province du lac Tchad, plus de 350 élèves de l'école rénovée de Bagassola, dont plus de 220 filles, apprennent la langue arabe et la pratique islamique. Mais aussi d'autres matières édictées par le Centre national des curricula du Tchad. André Kodomajingar, de retour de Bagassola pour VOA Afrique, N'Djamena.
Merci à André Kodmadjingar. Nous restons au Tchad pour aborder notre fait marquant de la semaine. Vous l'avez suivi, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, a été désigné candidat à l'élection présidentielle au Tchad après avoir obtenu le oui à sa nouvelle constitution par référendum. Le ralliement de l'opposant Succès Mastra, devenu Premier ministre, a suscité des critiques. Certains considérant cela comme une tentative de perpétuer une dynastie, une partie de l'opposition et de la société civile avait appelé au boycott du référendum. Nous retrouvons Armand Gambay Njegoltar Njerakor de Electron TV. Il est avec nous en ligne. C'est notre station partenaire N'Djamena. Bonsoir Njegoltar.
Bonsoir Eric.
Alors, quelles sont les raisons invoquées par ceux qui s'opposent à la candidature de Mahamat Déby et comment cela influence-t-il le paysage politique actuel?
Bien, en fait, ceux qui s'opposent à cette candidature, je pense, suggérée ou manifestée, sont simplement ceux qui font donc une assimilation filiale. Puisque le père a régné plus d'une trentaine d'années et que le fils étant au pouvoir, c'est donc simplement, n'est-ce pas, une agrégation du passif de la gestion du père qui est en train de se projeter sur le fils. Et cela influence effectivement les tendances parce que, pour beaucoup, ça veut dire que c'est la perpétuation de ce qui a été connu, ça peut être la perpétuation en bien ou en mal des différents aspects selon la perception des uns et des autres. Cependant, il faut dire que cette proposition, sinon cette homologation ou cette, disons, suggestion de la candidature est en phase avec les conclusions du dialogue, puisque le dialogue dit que les dirigeants de la transition sont éligibles et peuvent participer aux différentes échéances, Eric.
Alors, s'ils ne veulent pas de lui, ils peuvent le faire partir par la voie des urnes, n'est-ce pas? Voudriez-vous nous parler des défis auxquels l'opposition est confrontée pour former un front uni face au président de transition, notamment compte tenu des divergences internes et du contexte politique après que Succès Mastra est devenu Premier ministre?
Eric, on doit observer qu'avant la fin avril 2021, avec les dernières élections sous le feu maréchal, l'opposition avait fait un bloc et donc avait boycotté les élections et semblait être donc une opposition unie. Aujourd'hui, avec la transition, cette opposition s'est essoufflée, elle s'est un peu émiettée, et parler d'un sursaut ou d'un front de l'opposition face à cette situation relève un peu de l'infinitésimal. Mais peut-être il faut rester toujours positif en pensant qu'il peut y avoir peut-être un réveil de l'opposition, mais dans cette phase-là, je veux simplement dire, du point de vue de mon analyse, que cette opposition s'est laissée affaiblir et aujourd'hui, il n'y a que quelques individualités de l'opposition qui expriment leur voix parce que les grosses figures, semble-t-il, entre guillemets, de l'opposition, aujourd'hui, avec le fait que Mastra ait regagné le gouvernement, pour beaucoup, on l'a déjà dit une fois, c'est une tendance à l'accalmie, une espérance, mais pour d'autres, c'est peut-être aussi le synonyme d'une trahison. Et donc, l'opposition est un peu dans une division qui semble l'affaiblir.
Et quelles sont les attentes générales de la population tchadienne envers cette élection présidentielle prévue fin 2024?
L'attente la plus phare, c'est de pouvoir accéder, disons, ou bien arriver à un changement. C'est ce changement. Et ce changement apparaît dans la psychologie de plusieurs comme un changement, de régime ou bien un changement de tête de personne en faisant toujours, comme je l'ai dit, une assimilation filiale. Mais on doit plutôt aussi regarder le fait que pour un pays post-conflit, la question de la filiation, faire des assimilations filiales, ce serait un piège et créer une jurisprudence qui peut à terme poser du tort dans, un peu l'essence démocratique même du pays. Donc, nous espérons bien que dans les prochains jours, les politiques verront à quelle mesure ils vont travailler à ce que la population soit, n'est-ce pas, rassurée et surtout même les potentiels candidats, comme le cas du général qui vient d'être proposé par le Mouvement patriotique du Salut. Il est important de voir dans quelle mesure garantir à cette population qui a tant d'attentes, qui a tant de problèmes sous les bras et qui veut voir le changement, comment lui garantir que ce changement est possible en dépit de l'assimilation familiale qui pose problème aujourd'hui.
Armand Gambay, Ndjegoltar, Ndjerakor, je rappelle que vous êtes PDG de Electron TV, notre station partenaire à N'Djamena. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et sans transition, nous allons passer à notre dernier élément de cette édition de Focus Sahel. La Coupe d'Afrique des Nations a débuté samedi dernier à Abidjan, la capitale ivoirienne. Les étalons de l'équipe nationale du Burkina Faso, qui ont joué aujourd'hui et qui ont gagné par 1-0, font partie des 24 équipes présentes en terre des Burnies, devenant un facteur de cohésion sociale et de résilience en ces temps difficiles pour le pays des hommes intègres. C'est le constat de Gilles Dasda, un de nos correspondants à Ouagadougou.
La longue lutte contre le terrorisme au Burkina est marquée par de nombreuses tensions internes touchant différentes couches sociales du pays. Mais face à toutes ces difficultés, un facteur semble faire l'unanimité. Les étalons. L'équipe nationale de football burkinabé est sur le territoire ivoirien pour disputer la CAN et sa présence à cette compétition est perçue comme un facteur de résilience et de cohésion sociale. C'est ce qu'on pense dans les rues de Ouagadougou et Germain Yougbaré adhère à cette idée.
Ça peut permettre les gens d'oublier ce qui se passe, surtout au Burkina. Nous, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on prie que les étalons arrivent en finale et remportent le trophée. Et pour permettre les Burkinabés de sourire un peu.
Pour Bouraïma Soré, autre habitant de Ouaga, le foot permet de retrouver le sourire par ces temps d'insécurité. Le sport roi aide au renforcement des liens sociaux.
Que ce soit n'importe quelle religion, les ethnies, sur le terrain, on ne cherche pas à savoir c'est de quel bord, c'est de quelle ethnie, ou bien vraiment ça réunit.
À cette CAN, l'équipe nationale constitue plus que jamais un centre d'intérêt des Burkinabés au vu de la situation que traverse le pays. L'impact des étalons sur la cohésion du pays, Bernabé Cabré, un des célèbres journalistes sportifs du Burkina, l'a senti monter avant le début de cette Coupe d'Afrique.
Ça va rassembler encore plus les Burkinabés autour de leur équipe nationale. Ils seront vraiment soudés. Donc le football pour moi, surtout cette Coupe d'Afrique des Nations, est l'occasion pour les Burkinabés d'aller ensemble une fois de plus, de se tenir la main. Le football, c'est ce sport-là qui n'a pas de barrière.
Résilience est le nom donné au maillot que les étalons vont arborer lors de cette CAN. Derrière l'équipe, des millions de Burkinabés sont mobilisés, allant des personnalités de tous bords, au Burkinabé lambda, un attachement aux couleurs et à l'équipe nationale qui transcende de nombreux clivages et qui pourrait donner du baume au cœur des Burkinabés. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'était le reportage de Gilles Dasda et le Burkina Faso a battu la Mauritanie pendant les arrêts de jeu par 1-0, 1-0 sur pénalty marqué par leur joueur vedette Traoré. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.